Bonjour Julie, comment ça va?
Hey, ça va bien toi?
Ça va bien, merci. Julie Châtelet, notre chroniqueuse bien-être.
Exact, chroniqueuse bien-être avec la DMLA parce que en fait, tu viens de savoir que c'était le mois de la sensibilisation.
Oui, c'est
alors
vrai.
merci François.
Ça me fait plaisir. Il n'est pas trop tard.
Mais non, c'est ça.
Ben, c'est certainement un sujet qui touche de près. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de la communication non-violente. Et ça, j'espère qu'elle est non-violente parce que Mais des fois, ça devient de la violence verbale quand on s'y prend pas de la bonne manière.
Oui, et en fait, la communication non-violente, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans notre vie tous les jours, mais beaucoup au niveau du travail. Et en ce moment, moi, c'est ça que j'entends. Le monde, là, beaucoup, beaucoup, là, il y a des défis au niveau du travail. Les gens sont fatigués.
Oui.
Là, tu vois, la semaine avant la relâche, là, autant ceux qui travaillent dans les écoles que ceux qui ont des enfants, c'est un moment où est-ce qu'on sent que tout le monde est un peu fatigué.
Un peu fébrile, hein? Il y a un petit peu d'électricité dans l'air.
Oui, c'est ça. Donc, tout ça, je me disais, tu sais, parler de communication violente parce que je pense que c'est un défi, la communication, pour tout le monde.
Oui.
Et je pense qu'il y en a pour qui c'est encore plus un défi que d'autres. C'est, la communication, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend, mais je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui ont des petites aptitudes peut-être un petit peu plus naturelles
pour
justement,
que ce soit fait en douceur, mais ça, comme tu dis, ça s'apprend. Alors ça,
ça s'apprend.
C'est pas... on peut partir de loin ou en fait avoir un bout de chemin à faire, mais il y a comme une méthodologie. Puis il y a eu un livre là-dessus.
Oui, c'est ça. Bien, justement, la communication non-violente, c'est vraiment une méthode de communication qui a été, dans le fond,
formalisée.
Il l'a créé. C'est Marshall B. Rosenberg.
D'accord.
Quand on est dans le domaine de la relation d'aide, donc on le connaît bien. Et dans le fond, cet auteur-là, le langage et les interactions qui vont renforcer les aptitudes à donner avec bienveillance et à inspirer les autres, le désir d'en faire autant. Fait que c'est comme si, tu sais, moi, je vais me forcer à bien communiquer de cette façon-là avec la communication non-violente, mais ça va créer un effet chez l'autre.
D'accord.
Qui devrait avoir plus de facilité. Tu sais, si j'arrive, puis je te
c'est dis tout de suite... Ouais.
Ben oui, tu sais, si je te dis tout de suite un blâme... « Hey, quand t'as fait ça, c'était niaiseux. » Bien, c'est sûr que l'autre personne tombe déjà en mode défensif.
Oui, exact. Alors, si on va partir de nous vers l'autre, on a la bonne attitude en communication, ça va naturellement inciter la personne devant nous à adopter aussi un peu le même cheminement.
Exact, c'est ça. Et là, ce qu'on voit, bien, en fait, au niveau des valeurs qui vont guider la communication non-violente, bien, c'est que ça fait appel à l'authenticité.
D'accord.
Donc, on s'exprime avec sincérité. Je me sens comme ça. On parle de nos besoins, on parle de nos sentiments et on ne met pas des jugements sur l'autre.
Oui, ça, c'est... les humains, on a le jugement facile parce que il fallait rapidement prendre des décisions quand quelqu'un se présentait devant nous dans le sentier, dans la forêt, là. Quand on était chasseur-cueilleur, savoir s'il fallait fuir ou combattre.
Exact.
Ou collaborer.
Oui, bien oui. Et c'est pour ça qu'on voit que facilement, bien, on va juger la personne dans ses comportements. T'sais, si la personne a fait ça, c'est parce qu'elle-même.
Oui.
On lui a même pas demandé pourquoi qu'elle a fait ça de cette façon-là pour essayer de comprendre c'est quoi son besoin à elle de faire ça. C'est comme une personne qui va tout le temps vouloir, tu sais, qu'on dit, voyons, on dirait qu'elle a pas confiance, on dirait qu'elle est pas capable de faire par elle-même. Et tu sais, si on va chercher le besoin en dessous de ça, et ça se peut justement, bien, qu'elle a besoin de se sentir en sécurité.
Mm-hmm.
Mais ça, on dirait que quand tu prends conscience de ça, tu dis, bon, OK, fait, c'est ça qui fait que ses comportements m'amènent à réagir. Mais elle a besoin de sécurité. Comment je peux y apporter de la sécurité?
Il faut être capable d'être conscient de l'interaction qui est en train de se créer. Il ne faut pas être uniquement nous-mêmes dans la réaction.
Non. Mais non, c'est ça. C'est ça qui est un défi. Tu sais, puis un truc qu'on faisait en relation d'aide, c'est que moi, je suis en mode, je vais dire, aidante. Et là, l'autre personne me dit un peu comme, tu sais, qu'est-ce qu'elle ressent, de qu'est-ce qu'elle, comment qu'elle me perçoit, je vais dire comme ça. Et moi, je dois rester juste dans l'accueil de qu'est-ce qu'elle est en train de me dire. Et non de tomber dans « Hey, tu me connais pas, je suis pas de même pantoute. »
Oui,
là,
exact, tout à fait. Oui.
Mais alors, juste de dire « Je peux entendre ton discours ou est-ce que tu es peut-être en train de, finalement, pas me connaître du tout, du tout. »
Exact.
Mais ça, ça va arriver beaucoup de travail.
Oui, mais alors, c'est pour ça qu'il faut être à la fois authentique, faire preuve de bienveillance envers l'autre, c'est-à-dire un peu comprendre d'où cette personne-là part, si je peux dire, mm-hmm. quel est son... son point de vue puis son prisme qui peut être peut-être parfois difficile à gérer. Puis là, il faut que les interlocuteurs et interlocutrices doivent être partie prenante à la discussion. Là. Il faut que tous les deux y mettent du sien.
Oui, et dans le fond, c'est, les deux sont responsables. C'est vraiment ça. Tu sais, on prend un bout d'écharpe, là. Mm-hmm. C'est moi, si je tiens mon bout, puis toi, tu tiens ton bout, OK, là, on peut communiquer. Si toi, à l'autre bout, t'échappes, tu laisses tomber l'écharpe. J'ai bien beau vouloir communiquer, mais ça ne va jamais se rendre. Ça va tomber par terre. Donc, on ne peut pas dans ce temps-là. C'est impossible. Ça prend vraiment chacun qui tient son bout d'écharpe pour que ça circule.
D'accord.
Dans le fond, on voit que la communication non-violente, elle va reposer sur quatre principes. Vraiment. C'est observer sans évaluer, identifier et exprimer ses besoins et ses sentiments, faire une demande avec sincérité et recevoir avec empathie. Ça, c'est vraiment la communication violente. Puis ça, on dit juste observer sans évaluer, bien, ça veut dire qu'on est capable de regarder la personne, d'observer sans la critiquer. On n'est pas dans, déjà nous-mêmes, vu qu'on la juge, bien, il y a comme une fermeture qui va se créer naturellement, oui. Parce qu'on n'est pas ouvert à l'autre. On est juste dans, hey, ça...
Je la connais, et comme
hein?
ça.
Même.
Encore une fois, voilà.
Encore une fois, parce que ça, c'est ça, là, c'est qu'il se passe souvent les mêmes comportements. Ça oui. reste qu'on est
parce
même.
Parce que tu parlais du milieu du travail où on va avoir à l'intérieur, dans une journée ou dans une semaine, plusieurs interactions avec
oui.
souvent les mêmes personnes. Puis mm-hmm. au début de chaque interaction, c'est difficile de faire abstraction de ce qui s'était passé la fois précédente.
Exact. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est ça, c'est que c'est tout du monde qui travaille à la même place, mais c'est pas des gens qui ont nécessairement des points en commun, là.
Oui.
C'est ça qui est le défi aussi, là. C'est pas des gens qu'on a choisis, qu'on a dit, ah oui.
on dit qu'on choisit pas sa ami. Famille, mais on choisit pas ses collègues de travail non plus.
Mais non, pas c'est vraiment. Ça. On se dit, ah, on travaille tous pour la même boîte, mais on est toutes des personnes différentes. Ça se peut que ton voisin d'à côté, qui est ton collègue d'à côté, tu dis, mon Dieu, je n'irai jamais prendre un café avec cette personne-là, c'est pas possible. Ben là, il faut être capable quand même de l'observer, puis il faut être en mesure d'identifier nous-mêmes et d'exprimer nos besoins et nos sentiments à travers une personne que j'ai pas d'affinité. C'est en premier, c'est moi-même de les reconnaître, de dire c'est quoi moi j'ai besoin,
ouais.
pour après ça être en mesure de le nommer avec sincérité et non dire moi j'ai besoin de ça, fait que t'as pas le choix de le faire.
Oui, c'est là, c'est important d'accepter qu'il puisse être productif, d'être vulnérable.
Mm-hmm.
Parce qu'on a pris à bord l'impression que d'être vulnérable, c'est pas à notre avantage.
Exactement. Mais non, c'est le contraire. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de chances d'avoir une réponse positive quand je parle de moi-même, de mon besoin.
Ouais.
Tu sais, exemple, même avec les enfants, même avec, tu sais, peu importe, quand on parle de nous-mêmes, moi, j'ai besoin qu'un matin, tu prépares ton lunch parce que là, maman, elle a mal à la tête ce matin. C'est juste ça, c'est différent de prépare ton lunch puis go en braille, là, tu sais.
Oui,
parfait. C'est là la différence. Puis c'est pour ça que parler avec sincérité, bien, ça va nous amener aussi à recevoir avec empathie. Parce que après ça...
Parce que l'autre aussi doit, ou on l'espère, la personne devant nous va s'exprimer aussi avec sincérité, va nous donner ses sentiments, va nous exprimer ses sentiments et ses besoins. Alors là, il faut nous aussi faire preuve d'empathie puis de recevoir ça. Là.
Ben oui,
ça marche dans deux sens.
On ne sait pas ce que l'autre va nous dire. Ça se peut que ce que l'autre va nous dire, ça ne va pas nécessairement faire notre affaire aussi.
Exact.
Parce que c'est pas parce qu'on dit notre besoin et qu'on dit nos sentiments que notre collègue d'à côté il est prête à recevoir ça puis à être ouvert. Mais au moins, moi, il ne faut pas être en train de te faire une vendetta, là, tu sais, puis de créer une espèce de.
Oui.
de c'est ça, là, tu sais, puis là, d'aller parler dans le dos de cette personne-là
avec
mes autres
oui.
collègues, puis, mais non, c'est ça.
Là, ça dégénère quand même.
Ça dégénère. Donc, d'accueillir ce que l'autre va me dire.
Mais ça me fait. Ça. Oui, ça me fait penser, Julie, quand tu parles de cette relation-là, qui peut être certainement dans le milieu du travail, mais je pense aussi. À nos voisins, voisines, les gens qui habitent au même étage que nous ou avec qui on partage, mettons, la même cour en arrière ou ainsi de suite, là, le même palier d'escalier. On ne connaît pas ces gens-là. Ce qu'on a en commun, c'est d'habiter presque à la même adresse.
Oui, exactement.
On est égaux, puis il faut être capable de régler les différends qui pourraient survenir dans le voisinage.
Mm-hmm. Puis une chose qui est vraiment importante, c'est de reformuler. Fait que ça, là, c'est une bonne stratégie. C'est de dire vraiment, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça que tu voulais me dire?
Oui.
Ça permet que l'autre personne, c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça. Ah, OK, parfait.
Ouais.
Mais ça, de reformuler régulièrement, ça va aider à toutes les interprétations. Que même si la personne elle nous a parlé avec sincérité, ça se peut qu'on n'ait même pas compris.
Qu'on n'ait pas compris, tout à fait.
C'est
puis
ça.
Évidemment, si on passe sur une base comme quoi on n'a pas compris le même message, ben là, ça va à nouveau déraper. Ben, Julie, c'est ce que tu nous donnes comme outil, là, c'est précieux. Ce que je retiens, c'est que ça part d'une capacité, je dirais une intelligence émotive, là, d'être capable de se voir soi-même. Et de voir l'autre sans porter de jugement. Et à partir de là, ben, les choses peuvent aller mieux. Mais pour ça, il faut être calme. Hein? Il ne faut, faut pas monter sur ses grands chevaux avant même que ça commence.
C'est ça, exactement.
Voilà. Je te souhaite une belle semaine au travail.
Merci toi aussi.
OK, ben à la prochaine. Merci Julie.
Bye-bye.